Bonjour, c'est Anne-Elisabeth et vous écoutez C'est à vous, un podcast de France Télévisions. Bonne émission. Bienvenue dans C'est à vous, très heureuse de vous retrouver. On est ensemble en direct jusqu'à 20h55 avec l'équipe de C'est à vous. Bonsoir à tous les quatre.
Bonsoir Elisabeth.
Mohamed, votre story du jour.
L'Angleterre crie au scandale. Le Rassemblement national appelle à sa démission. Gérald Darmanin est actuellement devant la commission des lois du Sénat. Il a enfin répondu sur la situation de samedi dernier. Il a présenté ses excuses. Vous allez découvrir les propos du ministre de l'Intérieur dans quelques secondes.
Merci Mohamed. Patrick, votre édito ce soir.
Je vais parler de la hausse du papier qui touche un grand nombre de produits de la vie de tous les jours. Un édito au bout du rouleau.
Le papier touché par l'inflation au plus haut depuis 37 ans. Est-ce que ça inquiète notre invité Jean Pisani-Ferry, économiste, professeur à Sciences Po, est avec nous ce soir. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci.
Je disais le contraire. Vous ne croiriez pas.
Oui, vous êtes inquiet. Vous nous en parlez dans un instant. Mathieu, dans le 5 sur 5.
Un anniversaire, le 1er juin 1987, il y a 35 ans, jour pour jour, naissait France Info. Eh bien, on va fêter cet anniversaire dans le 5 sur 5 tout à l'heure avec Marc Fauvel, qui dirige la matinale de France Info depuis 2018. Maintenant, qui sera notre invité.
Voilà, dont le règne est extrêmement long. Il est aussi indétrônable que la reine d'Angleterre.
Ce qu'il se disait ce matin, on va vérifier ça avec lui.
Et Pierre, dans votre œil ce soir.
Et ben justement, à partir du jubilé de la reine que vous allez largement évoquer, que nous allons évoquer dans la deuxième partie de l'émission, moi, je reviendrai à quelques souvenirs de 1977 et du jubilé de cette année-là.
C'est 25 ans à l'époque et vos débuts de journaliste, Pierre.
Débutant, jeune. En tout cas, jeune, c'est sûr.
C'est dans l'œil de Pierre, effectivement, le jubilé, les 70 ans de règne d'Elisabeth II que les Britanniques vont fêter pendant 4 jours à partir de demain. On en parle longuement avec 4 spécialistes de la monarchie britannique, Jean Descartes, Marc Roche, Paul Taylor et Anne-Elisabeth Moutet. Rendez-vous juste après 20h autour du dîner préparé ce soir par notre chef étoilé, Michel Portos, membre de l'association Les Bouffons de la Cuisine. C'est-à-dire les bouffons de la cuisine, cher Michel?
Une association caritative qui s'occupe des gens isolés et démunis.
Voilà. Et voilà, donc c'est essentiel.
Oui.
Et ce soir, vous nous avez préparé un filet de rouget.
Filet de rouget de Méditerranée.
Ah, c'est très important. Il sera à la plancha accompagné d'aubergines confites.
Tout à fait.
J'ai le bon menu pour une fois. Oh. Et ça se fait. Et ça se fait. C'est exceptionnel. Regardez, ça ravit mes camarades.
On va attendre le 1er juin.
Ah oui, Patrick, tout arrive. Tout finit par arriver, même l'édito de Patrick Cohen. L'inflation par l'exemple, vous avez choisi de nous parler de la crise du papier.
Il provoque des hausses de prix considérables sur tous ces produits, cahiers d'écoliers, ramettes, papier de toilette, mouchoirs, essuie-tout, livres, journal et carton d'emballage, évidemment, et fiches de C'est à vous. Tout ça est fabriqué par du papier, ça a en commun la même matière première, la pâte à papier, qui coûte 40% de plus qu'il y a 2 ans avant la pandémie, mais c'est une moyenne. Le papier à livre a pris environ 50% en un an, le papier journal 70%.
Comment ça s'explique, Patrick?
Plusieurs raisons. La hausse du gaz et de l'électricité, il en faut beaucoup pour sécher la pâte à papier et faire tourner des machines à fabriquer des feuilles. Une grève interminable chez le géant finlandais du papier UPM. 4 mois d'arrêt. Les livraisons n'ont repris que début mai. Mais la principale explication est structurelle. La voici, c'est la demande de cartons d'emballage qui explose. 1,5 milliard de colis ont été distribués en France en 2020. Une croissance annuelle à 2 chiffres, sans compter les emballages plastiques que les industriels remplacent par du papier cartonné. Tandis que dans le même temps, comme les ventes de journaux continuent de baisser, et les fabricants de papier se raréfient, l'Europe a perdu en 5 ans 1/4 de ses capacités papetières. Les usines qui restent se détournent du papier pour aller sur le carton. Résultat, pour le carton, la demande augmente plus vite que l'offre, les prix augmentent. Pour le papier journal, l'offre diminue plus vite que la demande, les prix augmentent encore plus.
Qui fait souffrir évidemment la presse écrite.
C'est un choc, hein, de plus. Le papier journal est passé en un an de 450 euros la tonne à 750 ou 900 selon le type de papier, presse quotidienne ou magazine. Une hausse payée par les éditeurs, même si quelques titres ont augmenté leur prix de vente, et qui aura été fatale au plus gros tirage de la presse française, TV Mag, 4,5 millions d'exemplaires chaque semaine, 30 000 tonnes de papier chaque année, soit un surcoût de près de 10 millions d'euros avec la hausse du papier. La presse quotidienne régionale qui le distribuait partout en France, qui le distribue encore pour les prochains mois, vient de dénoncer son contrat avec Le Figaro pour produire son propre hebdomadaire télé à partir de janvier prochain, à moindre coût.
Et les fournitures scolaires ?
Alors là, ce sera pour la poche des parents, mais avec des hausses limitées, parce que c'est un marché saisonnier, que les fabricants de cahiers négocient leur prix de vente avec les grandes surfaces à l'automne pour la rentrée suivante, presque un an d'avance. Donc les distributeurs s'étant engagés à des hausses de 12 à 15%, c'est à peu près ce que les consommateurs devraient retrouver en rayon fin août, début septembre, pour les fournitures en papier.
Et le papier toilette, dont vous avez un magnifique exemplaire à côté de vous pour toute cette chronique.
Alors ça, c'est pas saisonnier.
Je suis preneur.
C'est pas saisonnier, ça, Pierre.
Non.
Non, c'est toute l'année.
C'est ce qu'on appelle le papier mouchoir. Et là, personne pour absorber les hausses, même si le papier est absorbant. Les mouchoirs en papier ont pris 10% en un an. Le papier toilette devrait coûter 20% plus cher dans les prochains mois. C'est sans doute un record pour les objets de la vie quotidienne et de première nécessité, comme on dit.
Et là, Jean Pisani-Ferry, pas de bouclier tarifaire envisagé pour le papier toilette ?
Si on en arrive à un bouclier tarifaire pour le papier toilette, on est dans l'économie administrée complète.
Et pourtant, ce bouclier tarifaire mis en place par le gouvernement pour le gaz et l'électricité, c'était une bonne mesure et vous considérez même qu'il faut la poursuivre le plus longtemps possible ?
Mais je voudrais revenir d'abord sur un point, sur ce que disait Patrick Cohen. C'est-à-dire, si l'inflation, c'était que tous les prix augmentent de la même manière, ce serait un problème, mais ce ne serait pas un problème très grave. Ce qui est très frappant dans ce que vous dites, c'est que le prix du papier augmente, le prix du livre n'augmente pas, le prix du livre est fixé. Donc, c'est-à-dire que les éditeurs sont dans une situation terrible et les libraires sont dans une situation terrible. Les magazines qui sont associés, le magazine télé, là, justement, est bloqué par le fait qu'il est coincé entre ses coûts et le prix de vente. Donc, un peu partout dans l'économie, ça crée ces déséquilibres. Et c'est ça qui est très, très perturbant. Et d'autant plus que là, on a une inflation qui vient d'une part de ce qui se passe des suites du choc Covid, voilà, donc de tout ce qui a été bloqué, etc. Notamment. Ensuite, elle devient de l'énergie. Et troisièmement, elle devient de la guerre. Donc à chaque fois, on a des chocs spécifiques. Et on a quelque chose qui, du coup, crée énormément de perturbations.
Mais qui n'est pas uniforme.
Qui est loin d'être uniforme. Donc l'énergie en France, c'est entre, selon la manière dont on compte, entre la moitié et les deux tiers de l'inflation totale. Le reste, il y a des tas de prix qui ne bougent pas. Mais évidemment, plus ça dure, plus ça va être compliqué.
L'inflation à 5,2% du jamais vu depuis 37 ans, c'est une inflation considérable, en tout cas historique en France, mais c'est plus modéré que l'inflation ailleurs en Europe, par exemple.
Beaucoup plus modéré, on a l'inflation la plus basse de la zone euro. On a près de 20% d'inflation dans les pays baltes.
Ça veut dire qu'il faut s'estimer heureux.
On a 10% d'inflation en Espagne. Oui, on peut s'estimer heureux. Alors, est-ce que ça va durer ? Est-ce que le gouvernement dit que c'est à cause des instruments qu'il a mis en place tôt, hein, le bouclier tarifaire, etc., qu'il a la politique de tarification de l'énergie ? C'est vrai, ça a contribué. L'INSEE dit que ça a contribué pour 2 points à limiter la hausse des prix. Alors, ensuite, on a eu de la chance. On a eu de la chance parce qu'on n'était pas en situation inflationniste au moment où ça est arrivé, contrairement à l'Allemagne, qui était déjà proche du plein emploi, dans laquelle il y avait déjà des hausses de salaire, et donc on était déjà dans une dynamique inflationniste. Et puis il y a des pays dans lesquels l'énergie, ça compte beaucoup, beaucoup plus dans le panier de consommation, parce que ce sont des pays moins développés, parce que les modes de chauffage ne sont pas les mêmes, donc ça compte beaucoup plus. Alors ce qui est en revanche très frappant chez nous, c'est qu'évidemment les ménages ne sont pas du tout atteints de la même manière selon leur niveau de revenu. L'énergie, ça pèse beaucoup plus, évidemment, dans le budget des ménages à faible revenu.
Et pourtant, on a des mesures, un grand nombre de mesures uniformes. Est-ce qu'il ne faudrait pas les cibler
C'est ce que vous proposez avec ce fameux système à deux vitesses pour les prix d'énergie.
Il y a quelque chose d'assez subtil. Aujourd'hui, si vous faites, si je fais un transfert en disant vous, vous êtes, votre revenu est inférieur à tant, donc je vais vous soutenir. Donc je vous fais un transfert pour vous aider à payer votre facture d'énergie. La contrepartie de ça, c'est que ceci ne passe pas dans l'indice des prix. L'indice des prix n'est pas changé. Mmh. Si je fais une mesure générale, l'INSEE dit, ah ben, mesure générale, donc ça veut dire que l'énergie est moins chère. Donc je ne le compte pas dans le calcul de l'indice des prix.
Comme pour l'essence. Ouais.
Et donc, si je ne compte pas dans le calcul de l'indice des prix, ça veut dire qu'au moment des négociations salariales qui vont suivre, on ne va pas prendre ça en compte. Alors bien sûr, d'une manière ou d'une autre, il y aura des effets. Mais ces effets vont être nettement moindres que si on l'avait fait sous la forme de mesures ciblées. Et donc moi, je suis défenseur de mesures qui sont à la fois générales et en même temps qui, du coup, aident à ce que...
Les ménages les plus modestes...
Alors, comment est-ce qu'on fait pour que les ménages les plus modestes en bénéficient quand même davantage? On fait ce que j'ai appelé de la tarification duale. C'est-à-dire, on dit, vous avez, tout le monde a un certain quantum d'énergie qui peut acheter, hein, pour, pas pour la voiture, pas pour le transport routier, mais pour se chauffer, pour s'éclairer, etc. Il peut acheter ça à un tarif administré, et il le fait d'une manière très simple, c'est-à-dire que chaque ménage a son quantum, ça dépend de la composition du ménage, et il obtient une espèce de bon d'achat, il va voir son fournisseur d'énergie et il paye avec le bon d'achat. Mmh. Et donc, ça permet, si vous voulez, de limiter. Et l'INSEE dit là-dessus, ben, si c'est général, si tout le monde en bénéficie, moi, je le prends en compte. Mmh.
Voilà. Et puis, si on a besoin de plus d'énergie en fonction de sa consommation, on le paye au prix du marché. Mmh. Au prix du marché.
C'est un autre avantage. Ouais. C'est que, contrairement à une mesure générale, l'énergie marginale, celle qui reste, elle est payée au prix du marché. Et donc, vous ne subventionnez pas la Russie avec ce mécanisme. Tandis qu'avec un mécanisme général de plafonnement des prix, vous subventionnez l'énergie et donc vous subventionnez les exportations russes.
Il n'y a pas que les tarifs de l'énergie qui inquiètent les Français. L'inflation, ils la vivent tous les jours en faisant notamment leurs courses, comme cette retraitée qui vit avec 1100 euros par mois.
Combien de grammes il y a là-dedans ?
250.
Oh ! Alors ça fait 20 euros le kilo, après moi le déluge. 7,95 €. Bon, ben ça fait rien, vous voyez, je craque.
Vous allez devoir vous priver sur autre chose.
Ah ben oui. J'ai les charges, 500 ou 600 euros de dépensés. Ensuite, il y a les pépins. Comme là, ma chaudière vient de péter. J'ai payé une note de 400 euros. Ben, si je retire déjà sur ma truc 400 euros plus les charges, ça fait 1000 euros. Il reste 100 euros pour vivre. Et ben voilà.
Est-ce que dans votre vie, vous avez déjà vécu un moment où vous êtes autant privé finalement?
Même pas pendant la guerre, puisqu'on avait notre jardin et on avait des animaux, donc même pas.
C'est une hausse des prix à laquelle les Français vont devoir malheureusement durablement s'habituer?
Alors ça, c'est tout le débat de savoir combien de temps ça dure. C'est très difficile de le dire parce qu'on est dans une situation avec la guerre pas loin de nos frontières. On ne sait pas combien de temps va durer cette guerre et donc on ne sait pas quelles vont être ses conséquences. Et en particulier, on ne sait pas ce qui va se passer sur les prix alimentaires parce qu'on a tout ce débat sur est-ce que l'Ukraine va pouvoir exporter, est-ce que la Russie continue à exporter, quelles vont être les conséquences sur... les produits alimentaires. Alors, c'est grave de manière générale, c'est très, très grave pour des pays en développement qui importent beaucoup de leurs produits alimentaires d'Ukraine ou de Russie. Ça, c'est dramatique pour eux. Alors, bon, on va voir. Le risque, c'est que, puisqu'il y a le bras de fer en ce moment entre les Russes et les Ukrainiens, les Russes disent on continue le blocus, les Ukrainiens disent si on a le blocus, les silos sont pleins, on ne peut pas garder, on va perdre une partie de la récolte. Et donc ça va déséquilibrer le marché international.
Cette hausse des prix pose inévitablement, vous l'avez évoqué, la question des salaires. Ce matin sur France Info, Geoffroy Roux-de-Bézieux, le patron du MEDEF, a tiré la sonnette d'alarme.
On est dans un système de course à l'échalote où on augmente les salaires en fonction de ce qu'on connaît au mois de janvier et que l'inflation qui est annoncée. Donc effectivement, il y a une demande forte. Nous, on entend ces revendications. Je veux dire, les patrons, c'est souvent des salariés aussi et qui font leurs courses comme les autres, qui prennent leur voiture pour aller travailler. Donc il y a des entreprises qui vont soit distribuer des primes supplémentaires, soit refaire des négociations d'ici la fin de l'année et pas attendre janvier 2023 pour pour négocier. Mais quand vous avez vos marges qui baissent, quand vous avez vos prix de matières premières qui montent, comme le cas de l'aluminium, du titane, etc., ben vous faites vos comptes et c'est celles qui le peuvent. Parce que la seule manière de faire après, c'est d'augmenter les prix.
Des primes plutôt que des hausses de salaire, c'est une meilleure solution pour l'économie française?
Alors, les primes, il faut savoir de quoi on parle. Je ne suis pas du tout en train de proposer que les entreprises qui vont bien donnent des primes. Mais la question, c'est quel est le caractère permanent de ces hausses de salaire? Comment on répartit entre des hausses de salaire qui ont un caractère permanent et des suppléments qui peuvent avoir un caractère transitoire? Je dis ça parce que vous ne savez pas du tout ce qui se passe dans 6 mois ou dans 1 an. Vous ne savez pas du tout si les prix vont continuer à augmenter, si on risque d'avoir un effondrement, hein, si on a une récession à la fois aux États-Unis, en Europe, en Chine. On peut avoir un effet brutal sur les prix de l'énergie et on peut avoir un effondrement des prix de l'énergie. Donc, dans ce genre de situation, je pense qu'il faut prendre des mesures qui nous permettent de voir. Je ne suis pas du tout en train de dire il faut
temporiser.
Ouais. Il faut être là, garder les capacités de changer de décision. Il faut être souple. Et donc, oui, il faut être souple.
Il faut être souple et à la fois réunir très rapidement les syndicats et le patronat pour trouver une forme de consensus dans cette lutte contre l'inflation. Ça, vous dites que le gouvernement serait inspiré de le faire le plus rapidement possible.
Ben oui, il y a à l'évidence un sujet de conférence sociale là-dessus. Il y a à l'évidence un sujet pour savoir. Vous savez, c'est un prélèvement très important sur l'ensemble de l'économie française. La facture énergétique, elle était de 2,5%, elle va passer à 6% du PIB. Voilà. Donc, c'est très important. Il faut savoir comment on se répartit cette charge. Il y a une manière qui est de dire on se bagarre. Chacun demande une augmentation supplémentaire. Le coût de cette affaire, c'est évidemment qu'à l'arrivée, c'est pas parce qu'on a augmenté un peu plus les prix qu'on a trouvé une solution équilibrée. Donc trouver et négocier un compromis, et négocier un compromis avec l'État qui dit « moi je suis prêt à », il le fait déjà, je suis prêt à soutenir, je suis prêt à mettre de l'argent budgétaire pour ça, parce que je pense que mon rôle dans cette affaire, c'est aussi d'aider à ce qu'on contrôle l'inflation. Et donc, on limite ça par des soutiens budgétaires du type, effectivement, mécanisme sur le prix d'énergie, chèque énergie, du type tarification, etc.
Cette bataille économique, elle est évidemment aussi une affaire européenne. Voici comment Christine Lagarde, présidente de la Banque Centrale Européenne, décrivait son état d'esprit à la télévision néerlandaise la semaine dernière. Écoutez bien, car notre confrère néerlandais, si j'ose dire, ne lâche pas Christine Lagarde.
Don't regret any of that move that we took on that day, which was 4 months into my job, to significantly increase the size of the balance sheet, because that's all we had. Yeah. Otherwise, the economy would have collapsed and it would have been even accelerated by a financial crisis.
You had to do it. It was the COVID crisis. You say that's what we needed to do. But how do you get it?
It will
back?
Come. It will come. In due course. Yeah.
How?
In due how? Course, it will come.
Yeah. No, but do you sleep at night when you see this?
Of course I have to sleep at night and I have to worry every morning. Yeah.
Okay.
Donc on est content qu'elle dorme bien, mais elle a raison de s'inquiéter le matin, quoi.
Écoutez, moi je pense que les banques centrales l'ont fait, d'abord elles l'ont toutes fait. L'inflation qu'on voit n'a pas grand-chose à voir avec ce que les politiques elles ont conduites. Hein. Si on n'avait pas eu le choc Covid, si on n'avait pas eu ensuite toutes les perturbations que ça a créées dans l'économie, on n'aurait pas le type de questions qu'on a aujourd'hui sur l'inflation. Ce n'est pas une inflation par la demande. Mmh. Alors, je ferais une exception. Hein, celui qui ne devrait pas dormir la nuit, c'est Jay Powell, le président de la Fed, et puis le président Biden. Parce que là, ils ont fait une grosse bêtise. Ils ont fait une grosse bêtise qui a été de stimuler une économie très fortement, alors que cette économie était déjà au plein emploi. Et ils l'ont fait pour des raisons strictement politiques en ce qui concerne l'administration américaine. Donc oui, de ce côté-là, oui. En Europe, non.
Et l'augmentation des taux pour lutter contre l'inflation que va décider la BCE, c'est une solution inévitable.
C'est une solution inévitable, mais ça n'ira pas très loin. Les taux sont à moins 0,5%. Ouais. Évidemment, ce n'est pas raisonnable de maintenir les taux à moins 0,5% quand l'inflation est où elle est, 7-8% dans la zone euro.
Et ça ne devrait pas avoir beaucoup d'effet sur l'inflation.
Et ça n'aura pas beaucoup d'effet sur l'inflation.
Contrairement mais à ce qui est dit dans les discours des banquiers centraux.
Oui, mais enfin, il y a ce concept de normalisation qu'il répète, qui ne veut pas dire grand-chose. On comprend qu'ils veulent dire qu'on doit repasser de l'autre côté et se retrouver avec des taux positifs, mais ce n'est pas ça l'instrument. Quand vous avez de l'inflation importée par l'énergie, par les produits agricoles, la hausse des taux, ça ne fait pas grand-chose. La sagesse des banquiers centraux, c'est que par rapport à ce type de choc inflationniste, il faut se battre contre les effets de deuxième tour, c'est-à-dire ceux qui sont générés par l'augmentation des prix d'énergie et des prix des produits alimentaires. Pas les effets de premier tour, parce qu'on ne peut rien faire contre.
Vous restez avec nous, Jean Pisani-Ferry. On va continuer à commenter avec vous l'actualité. C'est l'heure de la story de Mohamed Bouafsi. Gérald Darmanin est la ministre des Sports, auditionnée par la commission des lois et de la culture du Sénat, 4 jours après le fiasco du Stade de France.
Oui, tout d'abord, regardez cette photo, ces banderoles devant le stade d'Anfield en Angleterre. Darmanin est un menteur. Ce tweet de la légende du club de Liverpool, Jamie Carragher, présent en France samedi dernier, Darmanin est une fraude. Et cette une du journal Libération, avec le ministre de l'Intérieur grimé en Pinocchio, au Rassemblement national, Marine Le Pen appelle à la démission du ministre de l'Intérieur après ses prétendus mensonges. Gérald Darmanin était auditionné par le Sénat, c'était il y a quelques minutes.
Il est évident que les choses auraient pu être mieux organisées. Avons-nous évité le pire? Oui. Pouvons-nous mieux organiser? Aurions-nous pu anticiper davantage? Sans doute. Le gaz lacrymogène a permis de sauver un certain nombre de personnes de l'écrasement. Il a aussi causé de grands dégâts, notamment sur des enfants. J'ai vu, comme vous, les images. Je voudrais m'en excuser très sincèrement de cette utilisation disproportionnée. Et des sanctions seront prises. Je vous les communiquerai, si vous le souhaitez, Monsieur le Président de la Commission des lois.
On entend les excuses du ministre Gérald Darmanin. Pendant cette audition, le ministre a notamment présenté ce document. Il maintient le cap et notamment ces chiffres de 30 000 personnes sans billets ou avec des billets falsifiés, des chiffres confirmés par la Fédération française de football qui avait délégation pour l'organisation de la finale de la Champions League. Ce nombre est pourtant contesté par plusieurs voix au sein de l'UEFA. Iban Raïs et Anaïs Recouli ont rencontré le président de la commission des lois du Sénat. C'était avant l'audition de Gérald Darmanin. Il nous explique l'enjeu de ce moment.
L'enjeu est de connaître la vérité, qu'on nous dise ce qui s'est réellement passé et sur les arguments qui sont avancés, qu'on nous ramène les éléments de preuve, en tous les cas, qui démontrent les propos tenus. Il n'y a pas de drame de dire qu'on s'est trompé. Le tout, c'est de l'assumer et de ensuite réglifier le tir. Si en revanche, on nous a menti pour le principe et pour faire croire que tout allait bien alors qu'il y a eu des carences extrêmement importantes, c'est extrêmement grave. Je me demande si finalement les ministres ne se sont pas enferrés sur une posture et qu'ils ont des difficultés à en sortir, voyant leurs arguments petit à petit totalement contestés et donc ils ne doivent pas savoir comment s'en sortir. Mais la meilleure solution, c'est de dire la vérité et d'en tirer ensuite les conséquences.
Au plus haut sommet de l'État, on reconnaît la mauvaise gestion des flux, que le dispositif de sécurité avait été pensé pour gérer du hooliganisme, mais pas de la délinquance, comme on l'a vu samedi soir. Selon plusieurs sources proches de l'Élysée, le président de la République, Emmanuel Macron, a demandé à Gérald Darmanin d'être plus présent sur les justifications de ce raté, tout en exigeant aussi plus d'humilité face à ce fiasco qui a terni l'image de la France. À l'issue du Conseil des ministres, le gouvernement a reconnu des failles importantes sur la gestion de cet événement.
Est-ce qu'on aurait pu faire les choses mieux ou est-ce que ça aurait pu être mieux géré? Oui. Est-ce qu'on peut améliorer les choses, notamment en vue des prochaines compétitions sportives? Certainement. Je maintiens absolument désolé pour tous ceux qui n'ont pas pu rentrer au sein du Stade de France alors qu'ils étaient munis de billets valides. Grâce à vous, j'ai aussi l'occasion de m'excuser et en tout cas de dire que nous sommes désolés, que nous allons, pour ce faire, et c'était le sens de ma réponse justement, faire la lumière qu'il se doit.
Petite information à préciser aussi, à partir de lundi prochain, les supporters madrilènes, donc du Real Madrid, et les supporters de Liverpool pourront porter plainte dans leur pays respectif. Mais que pense vraiment le ministre de l'Intérieur de cette polémique qui n'en finit pas? Le Stade de France, c'est un prétexte. Il sait qu'il a une cible dans le dos, encore plus pendant les législatives. Ce sont les mots que nous a confiés un proche de Gérald Darmanin cet après-midi.
Mais Gérald Darmanin maintient les chiffres avancés.
30 à 40 000.
30 à 40 000 faux billets ou téléspectateurs ou spectateurs sans billets qui se seraient approchés,
présentés
au Stade de France samedi. Ces chiffres, en tout cas, il les confirme.
Il les confirme, la Fédération française de football les confirme aussi. En revanche, l'UEFA parle plutôt...
Pardon, mais l'UEFA, la Fédération française de football était
l'opérateur de l'UEFA.
Comment l'UEFA et la Fédération de football peuvent pas dire
parce
la même chose?
Parce que la Fédération française de football confirme les propos du ministre de l'Intérieur, notamment en évoquant ces 3000 personnes qui se sont présentées face à ces tourniquets avec des faux billets. En revanche, le ministre de l'Intérieur estime qu'il y avait plus de 30 000 à 35 000 personnes dans le périmètre de sécurité, ce qui n'est pas le cas selon l'UEFA. L'UEFA explique qu'il y avait moins de personnes, entre 10 et 15 000 environ.
Bon. En tout cas, on continuera à...
L'enquête, on précise que l'enquête est toujours en cours, notamment
oui, mais
du côté
non,
de l'UEFA.
L'enquête, elle n'est pas en cours. L'enquête, elle est refermée avant même d'avoir commencé. Tout le monde parle de mensonges. Moi, je suis très troublé, très choqué par l'outrance de ce débat depuis deux jours, où des titres de presse, les supporters, c'est leur boulot, etc., mais l'opposition, etc., dit menteur, menteur pathologique, mensonge.
C'est ce que disait hier Jordan Bardella.
Et il y a de l'outrance aussi au gouvernement. Comment on peut... Enfin, avant même que les choses soient établies, que les faits soient sur la table, tout le monde traite de menteur. On a même vu le président de la commission des lois dire « il faut que Darmanin arrête ses mensonges et dise la vérité ». Qu'est-ce que c'est que ce débat public, ce débat politique qui se dégrade à ce point avant même que les choses soient établies, que les choses soient confirmées? Moi, j'ai aucune certitude sur le nombre de gens qu'il y avait autour du parvis, mais avant de traiter quelqu'un de menteur, on regarde les faits, on regarde les... Enfin, bon, voilà.
Non, mais en tout cas, c'est effectivement le Rassemblement national qui, le premier, a accusé de mensonge Gérald Darmanin, Marine Le Pen ce matin sur France 2, et hier, Jordan Bardella sur notre plateau. Et quand on demandait à Jordan Bardella pour quelles raisons et sur quels éléments il traitait Gérald Darmanin de menteur, on n'a pas eu de réponse. Merci beaucoup, Mohamed Bouefsi. C'était une finale avant l'heure, face à face, les deux meilleurs ennemis du tennis mondial, et jusqu'au bout de la nuit, un combat titanesque destiné à rentrer dans la légende.
Oh, une gigantesque balle de match qui met un terme à ce monument du tennis. D'ores et déjà entré dans le panthéon de ce sport incroyable. Cette victoire en 4h12 de Rafael Nadal, 59e match face à Novak Djokovic. Il peut goûter son triomphe.
Bonsoir Patrick Mouratoglou.
Bonsoir.
Merci de votre présence ce soir, coach historique de Serena Williams, actuel entraîneur de Simona Halep et consultant pour France Télévisions. Le sourire de Rafael Nadal. Vous étiez présent hier à Roland-Garros jusqu'à 1h15 du matin?
Non, j'étais chez moi, mais j'ai regardé le match, évidemment, parce qu'un match comme ça, ça ne se rate pas.
Ça ne se rate pas. Un mot pour le qualifier.
Rafael Nadal ou le match?
Le match et Rafael Nadal.
Rafael Nadal, fidèle à lui-même, c'est l'histoire de sa carrière, ça, hein, un match comme ça. Il est tout le temps capable de sortir les matchs qu'il faut, quand il faut, et même quand on l'enterre, il est toujours capable de le faire. Le match était à la hauteur aussi de la carrière de Rafa. Il a démarré le match comme un boxeur, il a mis uppercut à Novak d'entrée, et Novak a été sonné. Il a été sonné quasiment à chaque début de set par un Rafa qui a été ultra agressif. Il a forcé sa nature. On rappelle que c'était un joueur qui était très défensif au tout début de sa carrière et qui petit à petit a développé sa capacité à puncher. Et aujourd'hui, hier plutôt, il a punché encore plus que d'habitude parce qu'il le fallait.
Il le fallait parce qu'il a déjoué tous les pronostics, y compris le vôtre.
Absolument.
Parce que vous pensiez qu'il serait battu et que ce serait probablement son dernier match à Roland-Garros. Hier.
Alors ça, je n'ai pas pensé que c'était son dernier match parce que je ne savais pas qu'il avait, il a déclaré très récemment que ce serait peut-être son dernier. Mais je pensais qu'il serait battu absolument parce que Novak, à mon sens, lorsqu'il est au sommet, domine les deux autres. Mm. Mais l'exception à cette règle, c'est que lorsque Rafa est à Roland-Garros, tout s'inverse.
Tout s'inverse. Il était quand même blessé, Rafael Nadal. Une blessure au pied gauche, une blessure assez importante. Il a quand même tenu 4 heures, quoi.
Ben c'est pour ça qu'il est étonnant. Il est capable d'être complètement mort et de se relever de ses cendres et de jouer un tennis incroyable. Il est capable d'être blessé et d'aller au-delà de la douleur pour livrer le meilleur combat possible. Il est capable de pas être favori du tout, d'être outsider et de sortir un match qu'on n'attend pas. Donc ben c'est l'histoire de sa carrière.
Il va gagner Roland-Garros ?
Comme je suis mauvais en pronostic, j'ose plus rien dire. Mais...
en tout cas, on lui souhaite. Là. Enfin, bon, c'était quand même une finale avant l'heure.
Bien sûr, il y a beaucoup plus sur la ligne. Parce qu'en fait, ces deux joueurs se battent pour être le plus grand joueur de tous les temps. Et donc, le nombre de grands chelems remportés, c'est quelque chose qui est clé chez eux. Rafa a pris de l'avance parce que Novak a été privé d'Open d'Australie pour des raisons de Covid.
Mais là, il avait l'occasion hier, Djokovic, exactement, d'égaler le nombre de titres du grand chelem. Nadal en a gagné 21. Djoko, 20. Donc, il pouvait être à égalité hier. Et là, il a perdu cette occasion-là.
Il a perdu cette occasion et il a donné la chance à Rafa d'en prendre encore un d'avance.
Donc, oui, voilà. Faire le break, quoi.
Exactement. Bravo.
Tout ça dans une ambiance incroyable hier sur ce court central. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça.
Tout ce Roland-Garros, c'est spécial. Hein. Il y a eu une ambiance tout le long de ce tournoi que moi, je n'ai jamais vue. Enfin, il n'y a pas que moi, d'ailleurs. Hein. Tous les gens qui sont des habitués de Roland-Garros le disent. Le public est survolté. Je pense que, à force de ne pas avoir eu le droit de sortir pendant si longtemps, les gens explosent.
Et pourtant, ils avaient tous l'air frigorifiés à 1h du matin. Ils avaient des plaids sur les épaules.
Oui, c'est vrai.
C'est vrai, mais bon, le public est fabuleux. Il a soutenu les Français de façon... c'est du jamais vu. Hein. Et hier, c'était incroyable. Et le match précédent, le premier quart de finale, était invraisemblable aussi. Le public était en folie.
Un public français qui soutient plus Nadal que Djokovic ou pas ?
Ah bah le public, c'est partout pareil. Hein.
Ah, alors, oui.
Ah oui, partout pareil. En fait, Djokovic, c'est celui qui a eu le tort de battre trop souvent Rafa et Roger, qui sont les deux chouchous du public. Donc, il a le mauvais rôle.
Ah oui, il a le mauvais rôle. Exactement. Il a été un peu sifflé la semaine dernière à Roland-Garros. Ça s'est calmé. Mais ça vous mettait en colère, hein, ces sifflets, eu égard justement aux prises de position de Djokovic contre le vaccin notamment.
Je trouve ça scandaleux. Et je pense que ce sont les mêmes personnes qui insultent les gens sur les réseaux sociaux, qui viennent dans des stades où il y a les plus grands champions de tous les temps et qui les sifflent. C'est grotesque pour moi.
Bon, le match était programmé en nocturne à partir de 21h. Il a fallu attendre donc 1h16 pour en connaître l'issue. Un horaire qui fait débat. Mais alors, du côté des joueurs, c'est unanime. C'est trop tard pour eux. Écoutez les deux champions.
I mean, there are difference of opinions about the night sessions. I think they're starting too late, to be honest. But again, you know, TV decides. That's the world that we're living in. You know, broadcasters say, you know, it's going to be night match, day match. They give the money, they decide.
On the other hand, the televisions pays a lot of money to have matches that late. Then the tournaments makes money, and then the players makes money. You know, so. We need to find the balance, the right balance to make the things the best way possible. No, but it's true that start a match here at 9 in the evening, playing on clay, best of 5, can be very long.
C'est celui qui paye qui décide. On assiste quand même à une privatisation du sport en général. Hier, France Télévisions s'est vu rafler ce match par Amazon Prime qui l'a diffusé, alors que France Télévisions est un partenaire de Roland-Garros depuis 35 ans. Vous l'avez regretté, vous aussi ?
En fait, ce que j'ai regretté, c'est que le tennis est menacé par d'autres sports, le padel en France, dans toute l'Europe, le pickleball aux États-Unis qui aussi prend des parts de marché énormes au tennis. Donc la fédération... L'objectif, c'est quand même...
Parce qu'on... De défendre son sport.
Bah, voilà. Donc, en fait, ce genre de match-là, c'est des matchs qui peuvent amener des gens à aimer le tennis, à suivre le tennis, à jouer au tennis. Donc, il faut qu'il soit vu par le plus grand nombre. Moi, c'est ça que je déplore.
Voilà. Et hier, ce n'était pas le cas. On ne saura jamais précisément combien de spectateurs étaient devant Amazon Prime, mais c'est forcément moins que devant le public de France Télévisions.
Incontestablement.
Et le fait de jouer tard, ça joue vraiment dernière.
Alors, d'abord, dans tous les autres tournois du Grand Chelem, on finit souvent très tard. Moi, ça m'est arrivé de finir à 1h, 2h, 3h du matin, parfois une fois même 4h. Bon, mais c'est exceptionnel. L'une des caractéristiques du tennis, c'est qu'on ne sait jamais quand un match finit. Et le match, ni quand il commence, puisqu'en fait, ça dépend des matchs précédents.
Bah oui.
En l'occurrence, ce que je pense déplore ces deux jours-là, c'est que le match est commencé à 21h. Les night sessions aux États-Unis et en Australie démarrent à 19h. Donc voilà, c'est
un... change tout.
Donc il y a discussion, mais il faut laisser, je pense, là pour le coup, le temps à la fédération de se roder. C'est tout nouveau. Les matchs le soir, c'est sympa aussi.
Ouais.
Ça permet au public de regarder parce que la journée, les gens travaillent à part le week-end. Donc c'est quand même de mettre le plus beau match en soirée dans tous les autres pays du monde. C'est ce qu'on fait. Donc c'est pas complètement stupide non plus.
Patrick, vous avez créé votre académie où vous amenez les jeunes talents à devenir grands. On va en évoquer un ou deux, notamment le jeune phénomène Carlos Alcaraz. Il a été éliminé hier par l'Allemand Zverev, Alexander. On a beaucoup parlé de lui, il suscite beaucoup d'espoir. Ce n'est pas son élimination d'hier qui gomme son avenir. On le voit gagner un Roland-Garros un de ses jours.
Absolument. On a même été surpris qu'il ne l'ait pas fait dès cette année. Donc, mais à sa décharge, son adversaire a fait un match absolument monumental. Il n'a franchement pas démérité. Il a très mal joué pendant 2 sets. Et il a eu le mérite de trouver les ressources. Ouais. Et ça, c'est vraiment la marque des grands, parce qu'il était vraiment perdu sur le court. Les ressources pour revenir et livrer un combat incroyable. Le match était vraiment lunaire. Le niveau du quatrième set était surréaliste, honnêtement. Hein. Je n'ai pas le souvenir d'avoir vu un match de ce niveau-là, en tout cas, pardon, un set de ce niveau-là depuis très longtemps. Non, il est extraordinaire. Il a tout. Il a un physique hors norme, une frappe de balle incroyable. Il a de l'audace. C'est un combattant hors norme. Enfin, franchement, s'il ne gagne pas de multiples tournois du Grand Chelem, l'ensemble des spécialistes de tennis vont être surpris.
Il y a un jeune espoir danois que vous connaissez bien, puisqu'il est dans votre académie, c'est Holger Rune. Je ne le prononce pas trop mal.
Pas mal.
Pas mal. Il joue ce soir Casper Ruud pour se qualifier en demi-finale. C'est pas rien.
Exactement. Il a le même âge que Carlos Alcaraz. Ouais. Ils ont 19 ans tous les deux.
Ah oui, oh là là.
Il a fait une très grosse progression. C'est un jeune qui a toujours bien joué. Il a été numéro 1 européen en moins de 14. Il a été champion du monde junior, numéro 1 mondial chez les juniors. Il a gagné Roland-Garros, d'ailleurs, chez les juniors aussi. Il progresse très, très bien. Et il a fait un gros tournoi, puisqu'il a éliminé en 8e de finale Stefanos Tsitsipas, le finaliste de l'an dernier, qui est chez moi aussi, d'ailleurs. C'était pas agréable, mais bon, j'étais content qu'il y en ait au moins un des deux en quart. Et il a battu Shapovalov au premier tour, qui est aussi une pointure. Donc, c'est un jeune qui va aussi probablement s'installer au plus haut niveau.
Après les annonces de Pierre, les mots de Pierre, on vient de comprendre pourquoi vous êtes l'un des coachs les plus réputés du circuit. Vous avez fait une annonce il y a quelques jours qui n'est pas passée inaperçue. En direct, vous avez évoqué la possibilité d'un changement de la part de l'ATP. Les coachs pourraient désormais entraîner en direct pendant le match les joueurs, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Alors que chez les filles, c'est plutôt le cas, on laisse la possibilité aux coachs de le faire. Ça serait une vraie révolution dans le tennis.
C'est une révolution parce que c'est le seul sport qui ne permet pas le coaching pendant les matchs. Pendant la compétition. Dans tous les autres sports, c'est plus que toléré, c'est même parfois mis en valeur. Parce qu'en fait, je trouve ça, moi, passionnant. Ça permet aux spectateurs de comprendre beaucoup de choses, de comprendre les stratégies, de voir les relations qu'il y a entre les coachs et les joueurs. Parfois même d'entendre des speeches qui sont passionnants ou qui nous élèvent. Donc moi, je le déplore depuis longtemps. En plus, je trouve ça dévalorisant pour les coachs parce qu'en fait, notre métier, c'est de coacher et pendant le match, on nous dit « faut se taire ». Mais le tennis a toujours été fier du fait que c'est le seul sport où les joueurs doivent se débrouiller par eux-mêmes.
Ouais.
Exactement. Donc c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de résistance, mais c'est le sens de l'histoire d'aller vers ça. Le sport devient un spectacle de plus en plus. Et il faut penser aux fans, et je suis toujours le premier à le dire. Le tennis ne pense pas suffisamment aux fans. C'est un sport qui est centré sur les joueurs, au lieu d'être centré sur les fans. C'est les fans qui font du sport ce qu'il est. Donc il faut penser à eux, et il faut tout mettre en œuvre pour que le spectacle soit le plus intéressant possible.
Donc là, vous coacherez, mais silencieusement, Holger, pendant son match.
C'est pas encore,
c'est ça. Ah, même ça, c'est interdit.
Ah, bah, même les signes sont interdits.
Vous n'avez pas des codes, des clignements d'œil
Moi, non, mais vous le faites très bien.
C'est le coaching le plus discret de la Terre.
Ça veut dire coup droit, ça.
Coup droit, vas-y, passe une shot. Merci, Patrick, pour rester avec nous. C'est l'heure du 5 sur 5 de Mathieu Béliard.
Salut, Mathieu.
Mathieu, un déplacement d'Emmanuel Macron hier soir à Cherbourg, un déplacement consacré à l'hôpital.
Oui, à l'hôpital, un hôpital en crise et, on l'a déjà raconté, des craintes majeures pour les services d'urgence dans les semaines à venir. Un service sur 5 est en tension, 120 risquent de fermer ou envisagent de le faire cet été. Après des années de saturation, après plus de 2 ans de pandémie, hier à Cherbourg, le président a été accueilli par un personnel de santé remonté.
Les unités d'hospitalisation sont saturées, les équipes sont épuisées.
La psychiatrie en France souffre d'un sous-investissement depuis longtemps, donc on a enrayé. On va mettre quelques années avant de rattraper les choses.
Le bateau coule. Le système vacille, c'est inquiétant. Je suis inquiet. Moi, en tant que médecin, je suis inquiet.
Parce qu'ils ne trouvent pas d'infirmières, ils recrutent avec 30% d'augmentation de salaire pour les nouvelles. Nous, on n'a pas d'augmentation. Nous, on est formés, on va faire jour, nuit, on fait les week-ends. Elles sont appâtées avec 3 semaines de vacances.
Il n'y a plus de formatrices d'infirmières. C'est pas normal.
Mais un service comme le vôtre, on mettrait des jeunes infirmières et infirmiers, vous pourriez les encadrer?
On n'a même pas le temps de s'occuper des patients. On ne peut pas former les infirmières.
À l'issue de cette visite dans la Manche, Emmanuel Macron a annoncé le lancement d'une mission flash, ce sont ses mots, un mois pour faire le bilan, pour analyser les difficultés des hôpitaux du territoire. Une mission confiée à François Braun, président de SAMU Urgences de France.
Le problème des urgences, ça ne concerne pas les urgences. Ça concerne l'ensemble du système de santé. Alors, dans le cadre de ces soins non programmés. Puisque les urgences sont l'interface entre la ville et l'hôpital. Quand la ville ne va pas bien, ça retentit sur les urgences. Quand l'hôpital ne va pas bien, ça retentit sur les urgences. Vouloir traiter que le problème des urgences est une erreur. C'est pour ça que dans ce groupe qui va travailler avec moi, il y a aussi des médecins généralistes. Donc nous allons travailler la main dans la main entre l'hôpital et la médecine.
Les conclusions de cette mission flash sont attendues donc dans un mois. Les professionnels de santé sont sceptiques. Certains, en tout cas, le bilan, on l'a déjà fait, disent-ils. Ce n'est pas une mission d'analyse de plus qui changera la donne.
On connaît déjà la situation de l'hôpital. Le diagnostic, il est fait depuis longtemps. Je rappelle que le collectif Interurgence, on est né en 2019 et déjà, on dénonçait qu'on allait droit dans le mur. Aujourd'hui, on est dans le mur. On est en train de s'effondrer, très clairement. 120 services d'urgence en difficulté, la moitié qui risque des fermetures. Donc oui, on n'assure plus la continuité des soins sur le territoire. Une nouvelle annonce d'études enfin, qui ne mènera certainement pas à grand-chose. Je rappelle qu'en 2019, on a eu un pacte de refondation des urgences qui devait révolutionner les urgences. On voit que ça n'a absolument pas changé la situation.
Alors j'ajoute deux informations qui pourraient redonner du baume au cœur des personnels de santé, éprouvés, faut-il le rappeler, par la crise sanitaire. Les lycéens de terminale connaissent ce soir, en ce moment, les premières réponses de la plateforme Parcoursup pour leurs études supérieures. On apprend aujourd'hui que 30% des vœux sont dirigés vers le sanitaire et le social. Un lycéen sur 10 candidate pour une formation en soins infirmiers. Par exemple, autre information liée au secteur hospitalier, au nom de la Fondation des hôpitaux qu'elle préside, Brigitte Macron vient d'inaugurer un espace dédié aux soignants, une bulle zen, nous dit-on, pour qu'ils prennent soin d'eux aussi, pour qu'ils décompressent, canapé, bibliothèque, fauteuil de massage entre autres, inauguration pour cette première dans un hôpital psychiatrique parisien.
On a réfléchi avec des soignants, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider avec tous les dons que l'on avait. Et on est arrivé à la réflexion qu'améliorer leur qualité de vie au travail, sur leur lieu de travail, avec eux, c'était peut-être une goutte d'eau dans la mer, mais c'était les aider.
Un espace qui se veut ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, encore faut-il que ces soignants en question aient le temps de s'y arrêter.
On se pose des vraies questions de savoir mais qui va pouvoir y aller. Parce que concrètement, vu l'état des effectifs, on ne voit pas comment les soignants vont pouvoir trouver du temps pour y aller.
Des fois, les horaires sont compliqués. Donc si on a une pause de 5 minutes, si on peut se détendre, se relaxer, respirer, relativiser, c'est sympa.
Et puisqu'on parle de santé, on va quitter le territoire français pour la Chine, jour de liesse, et je pèse mes mots, à Shanghai. Regardez, les 25 millions d'habitants de la mégalopole retrouvent un peu de liberté. Sans parler de levée totale du confinement depuis ce matin, les restrictions les plus importantes sont levées. Voilà 2 mois que la ville était bouclée, le deuxième plus long confinement connu en Chine depuis le début de la pandémie. On vous l'avait raconté, scène de liesse, on court en ville comme un jour de solde, feu d'artifice. Écoutez ces habitants de Shanghai. Alors pour être précis, ce n'est pas un retour à la normale totale. Si les transports fonctionnent à nouveau, il reste des jauges dans les commerces, notamment les salles de sport et cinéma restent fermées. Certaines écoles également, ça on peut le rappeler, mais ça pèse lourd dans l'inflation, dans la situation économique qu'on connaît, la mise à l'arrêt de la Chine et leur politique zéro Covid.
Eh bien, on n'a pas encore vu les effets, parce que ça prend du temps. Hein. Et la politique zéro Covid, c'est une politique qui empruntent des voies qu'on croyait derrière nous, c'est-à-dire le confinement général. C'est très impressionnant de ce point de vue-là. et parce qu'ils n'ont pas de solution en termes de vaccination. Ils n'ont pas. Enfin, ça peut recommencer demain. Hein, parce que le virus continue de muter, continue de se développer, et il n'y a pas de solution. Et il y a cette idée qu'il faut arrêter le zéro Covid, dont on a cru à un moment que c'était la bonne politique hein, en France et en Europe. Mmh. Et en fait, non.
On n'avait pas d'autre choix puisqu'on n'avait pas de vaccin à l'époque.
Non, mais après, quand on a commencé, nous, à ouvrir, à permettre aux gens de retourner, de faire des interactions, etc., il y a eu l'idée, en Asie, ça marche. En Asie, c'est zéro Covid. C'est sauf que pour faire du zéro Covid, il faut avoir des mesures absolument extrêmes.
Et on a vu là ces images folles de libération.
Et Pékin n'est pas du tout dans cette situation.
Pékin est enfermé dans beaucoup de quartiers encore. Hein.
On fête un anniversaire ce soir dans le 5 sur 5.
Oui, l'anniversaire d'une radio, et pas n'importe laquelle. Il y a 35 ans, jour pour jour, le 1er juin 1987, France Info apparaissait sur les ondes.
Tous les jours sur France Info, il y a l'info qu'il vous faut. France Info. France Info.
7h-1, vous êtes sur 105.5 en modulation de fréquence. Dans moins d'une minute maintenant, France Info commencera à émettre sur cette fréquence à Paris, Lyon, Clermont-Ferrand, Toulouse, Nantes, Le Mans, Mulhouse. France Info, c'est une nouvelle radio de Radio France qui diffusera désormais en permanence de l'information de 7h du matin à 0h30. C'est à Roland Faure, PDG de Radio France, de lancer le premier journal de France Info.
Lundi 1er juin 1987, France Info 7h, Michel Goujon.
Salut Marc Fauvel.
Bonjour.
Patron de l'excellente matinale de France Info depuis 2018. Quand France Info est née, vous aviez 10 ans.
Ouais.
Ne me dites pas que vous écoutiez déjà la radio France Info.
Si.
Et ben voilà, j'en étais sûr.
Si, enfin, pas au tout début, mais je me souviens de l'été qui a suivi. M'être réveillé un matin pour écouter ce drôle de machin avec ce jingle qui n'a pas, vraiment pas pris une ride.
qui
n'était pas le jingle d'antenne. Il y avait le jingle, c'était ce jingle, mais sans la voix, sans le. Ça, c'était pour les pubs télé. Voilà, l'info qu'il vous faut.
Et c'était je sais pas pour vous, mais pour tous ceux qui sont tombés sur cette radio au début, un ovni, une radio qui parlait, alors pas 24 sur 24 à l'époque, ça commençait, je sais plus à quelle heure le matin, mais
ça commençait à 6h à minuit.
Une radio qui parlait toute la journée, c'était, enfin, pour moi, c'était un truc incroyable. Pour moi, qui ai grandi avec collé à la radio et à toutes les radios. C'était le meilleur partenaire de jeu le soir au coucher, le matin au réveil.
C'était révolutionnaire à l'époque. Aujourd'hui, où le tout info est partout, où il y a des pushs sur les téléphones toutes les 5 minutes, comment continuer à avoir cette singularité-là du tout info à la radio et comment continuer à exister?
C'est vrai que je ne sais pas combien de fois on a annoncé la fin de France Info, la fin de l'info tout court. Il n'y a jamais eu autant de moyens de s'informer aujourd'hui. Mmh. Pendant que vous parlez, vous avez reçu 3 pushs sur votre téléphone, moi aussi. Et pourtant, on a besoin de ça. On a besoin, je crois, d'un lien de confiance, surtout aujourd'hui, de savoir qui nous parle, d'une info certifiée, d'une info qui dit quand elle ne sait pas aussi, c'est ce qu'on essaye de faire le matin, de décryptage. Et on a besoin aussi, je crois, pour l'info, vous en savez tous quelque chose, d'une forme d'incarnation. C'est-à-dire, c'est chouette un push qui tombe, c'est chouette un article anonyme sur Internet, mais sans source, sans visage, sans incarnation, ça ne veut rien dire.
Oui, parce qu'il n'y a pas d'engagement ni de responsabilité. Voilà.
Quelle heure sonne le réveil, Marc, chez vous?
Alors, en ce moment, c'est la fin de saison. Je l'ai repoussé un peu. Il est à 2h25.
Pour cet
anniversaire, on a envoyé...
Au début d'année, c'était 2h05. Ouais. Chaque semaine, il prend une minute.
Chaque minute compte. Ouais. Pour cet anniversaire, on a envoyé une équipe dans vos pattes ce matin, Louis Amar et Audrey Payas.
Ils ont fait perdre un temps fou.
C'est pas ce qu'on va voir. Ils sont levés tôt pour prendre la température et mesurer la bonne ambiance qui règne avant la matinale.
Il a mis son chandail du Père Noël est une ordure.
Très beau, en gilet, mais il était
jaloux. Ouais, ouais.
Bonjour.
Ils le font en joli.
Balance. Cœur. Vous serez d'une humeur maussade.
Ta gueule.
Mais votre entourage vous remontera le moral. Forme, bonne hygiène de vie.
Ouais, vous vous lavez les dents.
Le problème de Fauvel, c'est les pains au chocolat.
Ouais, un par jour, à la fin de l'année, c'est 4 kilos. Bon, j'en prends 2 par jour. Mais ils sont
c'est
petits. Vous avez remarqué, c'est des petits.
Par 3 ou 4.
T'as quoi en numéro 2? Les urgences, le plan urgence?
Je peux, mais c'était plus logique.
Mais ouais. Et tu fais un titre Nadal, tu termines sur Nadal et tu commences le journal dessus.
Tu me fous moi dans la merde, quoi.
Non. Ça évite de faire teasing plus premier titre, même couleur.
C'est l'heure? Ok, salut. Continue de monter l'inflation, gagne 5% désormais, ça.
France Info Météo.
Salut.
Avec meilleur temps.
Et en même temps, vos collègues vous le rendent bien.
Je me rends compte.
Écoutez ce qu'ils disent de vous.
Ouais, c'est quelqu'un qui est très exigeant, qui est très rigoureux, mais qui en même temps est très bienveillant. Il fait attention à chaque détail, il est très pointu, il est capable de fact-checker un invité en direct, etc. Donc, il est redoutable, quoi.
C'est plutôt fluide, en fait, entre nous. Et c'est ça qui est bien, c'est que on a la même conception du boulot et les questions, on veut les poser simplement, directement. Donc ouais, c'est plutôt simple.
Super chef d'équipe, c'est sympa, quoi. C'est agréable. La preuve, je reviens tous les matins, voilà, et pourtant, c'est pas vraiment mon horaire, c'est très très tôt. Ça fait d'ailleurs plusieurs années que je plaide en vain jusqu'à présent pour qu'on décale la matinée plus tard, en fin de matinée, vers 11h, 11h15, mais Marc est contre. D'ailleurs, Marc, lui, voilà, il aime se lever tôt, il pense que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, et il a sans aucun doute un bel avenir.
Ça joue beaucoup, quand même, l'ambiance aussi, cette bonne humeur dans une matinale radio.
Je pense même qu'il est impossible de supporter la vie et le réveil à 2h si on n'aime pas ça et si on n'y va pas avec une petite palpitation au cœur chaque matin. Franchement, faire ce boulot-là dans une ambiance qui ne serait pas celle-là, à mon avis, inimaginable.
Nous, on y arrive bien.
Pour supporter ça, voilà.
Alors, parlons de chiffres. Depuis quelques années, France Info connaît une très belle progression. C'est la troisième radio de France, désormais derrière France Inter et RTL. Au-delà de vos qualités, il y a eu le Covid, la guerre en Ukraine, la présidentielle. C'est l'actu qui vous porte sur ces audiences ?
On a longtemps dit qu'à chaque fois qu'il y avait une actu forte, France Info gagnait du terrain. Et puis quand l'actu retombait, France Info perdait du terrain. Ça a été vrai longtemps, ça ne l'est plus aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand l'actu, d'abord l'actu retombe peu, et même en période de creux, nos audiences restent fortes. Quand je vous parlais du lien qu'on a réussi, je crois, à établir, quand je dis on, c'est toute l'équipe. Il y a 200 personnes à France Info. Il n'y a pas que ma pomme. Il y a une équipe toute la journée. Il y a du reportage. Il y a des cellules de décryptage. Je pense que c'est ce lien qu'on a réussi à travailler ces dernières années. Je pense aussi que le confinement a sans doute joué. Effectivement, parce que pendant cette période-là, on a fait quelque chose qu'on ne faisait pas avant. On a ouvert l'antenne aux auditeurs et on a vu le lien qu'il y avait entre la radio, qui était parfois le seul lien, quand les gens nous appelaient, qu'ils étaient tout seuls toute la journée à tourner en rond dans leurs 20 mètres carrés avec juste la radio allumée. On a compris notre importance dans la vie des gens et on a compris le lien très fort, charnel, qui peut nous unir aux auditeurs. Voilà, la radio, c'est magique pour ça, je trouve.
Alors, est-ce que vous allez durer sur cette matinale? La question vous a été quasiment posée ce matin alors que vous évoquiez le jubilé de la reine d'Angleterre.
La photo de une, c'est Elisabeth II, dont les Britanniques vont célébrer le jubilé.
Et comme vous, indétrônable, le titre de la journal.
Ça va pas durer aussi longtemps quand même. Hein,
ah non. Vous visez les 70 ans de longévité en matinale.
Il reste 66 ans à faire pour arriver à détrôner Elisabeth.
C'est jouable.
Honnêtement, j'ai commencé un peu tard peut-être pour la détrôner. Voilà.
Alors on le voit, à partir de 8h30, la matinale est aussi diffusée à la télé, hein, France Info Télé, sur la TNT.
Canal 27.
C'est un autre métier, plateau télé, ou est-ce que rien ne change et vous continuez à dérouler votre matinale simplement?
C'est de plus en plus le même métier, la radio et la télé. Tout le monde aujourd'hui est obligé de s'unir. Ah, Patrick dit non.
C'est un gros inconvénient, c'est que vous restez dans le studio, vous pouvez plus bouger.
Ah oui, je peux plus partir manger un pain au chocolat.
Non, délocalisation, délocaliser la matinale.
Ouais. On peut le faire encore, on l'a fait moins, c'est vrai, on l'a fait moins, ça suppose d'avoir deux équipes. Mais effectivement, d'abord, il y a une toute petite prouesse technique, c'est qu'on change de studio, donc à 8h30 pile, je suis au 4e étage de la maison de la radio, à Paris, je lance un journal, en retard, comme tous les jours, et là, j'ai 2 minutes 30 pour descendre 2 étages par l'escalier. Comme il se doit,
pour parce pas que être si l'ascenseur
tombe en panne, c'est inimaginable. Me faire équiper, on se fait maquiller pendant le journal de 8h, les auditeurs ne le voient pas, mais pendant le journal de 8h en radio, entre deux relances, on est en train de se faire poudrer, maquiller, etc. Et ensuite, vous avez donc 2 minutes 30 pour descendre 2 étages, vous installer, saluer l'invité, mettre l'oreillette et réfléchir éventuellement.
Et la veste qui est de travers, généralement, après tout ça.
Mais tous les matins, j'angoisse. Je me dis, est-ce que Marc va réussir
mais
à
tous les matins, j'angoisse aussi.
Vraiment, je me dis, il ne va pas y arriver. Marc, qui est arrivé il y a 2 secondes, qui a croisé Jean Pizet Ferry et qui a fait son marché, qui essayait de vous débaucher.
Je lui dis, on vous avait pas eu depuis longtemps, et c'est bien qu'on vous ait et vous m'avez grondé parce que.
Je vous ai dit que j'étais
invité aujourd'hui, mais je lui dis que non,
je viendrai
ici.
Bientôt.
Bien sûr.
Bah, allez-y, faites tranquille votre matinale. Et Patrick Mouratoglou vous intéresse pas?
Il est venu hier.
Mais je sais. Bah oui, merci beaucoup Jean-Philippe Ferry de préférer France 5, c'est à vous à la matinale de France Info. Merci beaucoup Patrick d'être venu ce soir. Bonne demi-finale pour votre poulain. Merci à tous les deux. Merci beaucoup Marc. À demain,
7h.
9h30, l'excellente matinale de Marc Fauvel. Bon anniversaire. Vous nous quittez tout de suite. Dans un instant, le jubilé de la reine, c'est 70 ans. Et je vous libère, Jean-Pizani Ferry. À tout de suite pour le dîner de C'est à vous.